Vous écoutez, on lit pour vous.
Se débarrasser de la fatigue Zoom, un texte de Maude Goyer, paru le 16 janvier 2024 dans la presse. Efficaces pendant la pandémie, les réunions virtuelles sont aujourd'hui un outil indispensable du télétravail. Mais les enchaîner épuisent les travailleurs en créant une fatigue cognitive débilitante. Comment éviter la surcharge? Je n'ai pas le temps de me faire un café, ni même d'aller faire pipi. Isabelle, prénom fictif, 32 ans, travaille dans le milieu universitaire à Montréal. En télétravail, elle enfile les réunions sur Zoom au point de n'avoir aucun temps mort. Ça fera bientôt 4 ans qu'on fait des réunions virtuelles, souligne-t-elle, et on dirait que ça ne cesse de s'accentuer. On est dans un mouvement pour être toujours plus disponible et plus productif. Lasse de n'avoir aucune pause pour avancer ses tâches professionnelles, elle utilise une stratégie à l'insu de ses supérieurs. Elle bloque des plages horaires dans son agenda Outlook pour avancer ses dossiers. Je l'ai dit à certains de mes collègues, et ils font la même chose, avoue-t-elle. Valérie, prénom fictif, une gestionnaire de compte dans la trentaine, estime qu'elle participe à environ 25 réunions virtuelles chaque semaine. La charge mentale de ces meetings est immense, confie celle qui est en télétravail à 100%. Tu souris toujours, tu regardes ton propre visage à l'écran, tu dois rester concentré sur le contenu. Je me demande souvent s'il est bien nécessaire que je sois là. Communication moins efficace. La fatigue liée à l'utilisation excessive des plateformes de visioconférence comme Zoom, Meet et Teams est bien documentée. Le psychologue Jeremy Bailenson de l'Université Stanford a publié il y a 3 ans les résultats d'une étude à ce sujet. La fatigue Zoom a des conséquences psychologiques et physiques sur les travailleurs, indique l'étude. Stress, anxiété, immobilisme, manque d'interaction et de connexion avec les collègues, communication et compréhension plus ardues. Selon Élise Ledoux, professeure d'ergonomie à l'Université du Québec à Montréal, le degré d'attention demandé pendant les réunions virtuelles est bien plus important que lors de réunions en présentiel. Le cerveau doit travailler davantage, dit-elle, car nous n'avons pas accès à tous les micro-signaux pour faciliter l'interprétation des messages. Il faut recomposer l'information pour décoder le message. Cadre informel. François Courcy, professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke, rappelle que le choix des mots ne compte que pour 8% de la communication. Il y a tout un aspect du non-verbal qu'on perd lors des rencontres en virtuel, précise-t-il. Lorsqu'on est en face à face, on peut retirer beaucoup plus d'informations. Même si le télétravail comporte son lot d'avantages intéressants, Madame Ledoux remettent en question l'utilisation de certaines technologies, comme les réunions en visioconférence. Est-ce qu'on utilise ces technologies pour intensifier le travail? Demande-t-elle, tout en rappelant que certaines choses se règlent parfois autour de la machine à café ou dans le cadre de porte avant une réunion au bureau. M. Courcy aime d'ailleurs mettre au défi ses étudiants en leur demandant: quel est l'outil qui a le meilleur retour sur l'investissement au bureau? Réponse: la machine à café. La distance hiérarchique tend à disparaître et on se dit les vraies choses, note-t-il. Solution. Pour diminuer la fatigue Zoom, Tania Saba, professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, propose de réfléchir aux solutions de rechange aux réunions virtuelles. Est-ce qu'il s'agit d'une réunion de prise de décision, d'amélioration continue, de traitement de dossiers, de résolution de problèmes ou de brainstorming? La finalité est différente. Et donc, les suivis et les moyens utilisés seront différents, explique-t-elle. Pour éviter le présentéisme virtuel, soit le fait d'être à l'écran, mais de ne pas tout à fait être présent d'esprit, Tania Saba indique que l'organisateur de la rencontre devrait savamment choisir les participants. Lorsqu'une personne n'est pas concentrée ou qu'elle profite du moment pour faire une autre tâche, c'est peut-être un indice qu'il n'était pas nécessaire qu'elle assiste à la réunion, laisse-t-elle tomber. Et refuser de participer, tout simplement, est-ce une solution acceptable? Non, martèle Élise Ledoux. En début de pandémie, on pensait qu'il suffisait de trucs individuels pour diminuer les effets de la fatigue Zoom, mais c'est maintenant un enjeu organisationnel. Les gestionnaires et les équipes doivent développer des solutions qui leur conviennent en lien avec la culture de l'entreprise. C'était « Se débarrasser de la fatigue Zoom », un texte de Maude Goyer, paru le 16 janvier 2024 dans la presse.
Pascal Wilhelmy en harmonie avec elle-même. Un texte d'Alex Sandra Daigneau, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. L'animatrice et autrice Pascal Wilhelmy célèbre ses 10 ans de carrière littéraire de belle façon en lançant Post-it, son 6e roman. On a profité de l'occasion pour parler de cette nouvelle œuvre, de son processus de création et de son amour pour la campagne où elle vit depuis l'an dernier. Rendez-vous avec une femme de cœur. Pourquoi avoir choisi Post-it, un titre intrigant, pour ce roman qui ne parle pas, comme on pourrait le croire, de la maladie d'Alzheimer? C'est l'histoire de Simone et de Léo, une adolescente de 15 ans et son petit frère de 10 ans, dont la mère fait un séjour à l'hôpital beaucoup plus long que prévu. Les enfants, surtout l'ado, vont alors devoir s'occuper de la maison et essayer de faire comme si tout allait bien. Ils veulent éviter que leur entourage n'apprenne qu'ils sont seuls parce qu'ils ont peur d'être séparés et ils se laissent des notes sur des post-it pour se rappeler quoi faire, comme se brosser les dents ou éteindre le four. Au fond, c'est une histoire sur la solidarité et le courage des enfants. Vous dédiez votre livre aux enfants devenus adultes bien avant l'âge. Avez-vous connu des jeunes qui ont dû faire face à trop de responsabilités? Cette histoire m'a été inspirée par quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable. Lorsque j'en ai parlé avec les gens autour de moi, je me suis rendu compte qu'ils étaient nombreux à avoir dû devenir des adultes avant leur temps. Quand les parents sont aux prises avec des problèmes de dépendance ou de maladie mentale, par exemple, l'enfant le plus vieux va souvent être obligé de prendre soin des plus petits. Je me disais que leur histoire avait leur place, même si on parle beaucoup plus des enfants rois aujourd'hui. Peut-on dire que Post-it se trouve à mi-chemin entre le côté sombre de vos premiers romans et la légèreté des derniers? Les premiers étaient plus sombres parce que j'étais une nouvelle auteure et que je voulais prouver que je savais écrire. Je voulais aussi m'éloigner de mon image de fille joyeuse et légère, montrer que je pouvais être autre chose, alors que, dans mes soupers de fille, je suis allé dans l'extrême opposé. Post-it est un peu la réconciliation entre les deux. Je n'avais pas besoin d'épater la galerie, alors je n'ai pas cherché à faire de prouesses littéraires. J'y suis allé avec le cœur. Et j'ai écrit avec mes mots, dans la simplicité. Votre conjoint, Denis Lévesque, est souvent votre premier lecteur. La critique est-elle plus difficile à accepter quand elle provient d'une personne aussi proche? Pas du tout. Denis ne souligne que deux ou trois petites choses et en général, j'applique ses conseils. Mais au bout du compte, c'est mon roman. Je dois manquer d'ego à cet égard parce que je m'en balance complètement. Je suis rendu à l'âge où, si tu me fais une critique, je vais la prendre en compte et t'en remercier, mais c'est moi qui décide. Puisez-vous votre inspiration dans vos expériences personnelles? Je pense toujours que mes histoires ne me ressemblent pas parce que l'inspiration vient de l'extérieur, mais elles finissent toujours par me ressembler un peu. Ce qui me trahit toujours, c'est quand je parle des enfants. Quand mon chum a lu Post-it, il m'a d'ailleurs dit qu'il reconnaissait nos enfants dans mes personnages. Puisque l'écriture est arrivée tardivement dans votre vie, avez-vous eu le sentiment de devoir faire vos preuves comme autrice? Peut-être. En fait, je pense que ça m'aura pris 5 romans pour me dire que je suis une autrice. Aujourd'hui, je m'assume complètement. Je ne sais pas de quelle façon Post-it voyagera ou de quelle façon il sera reçu, mais j'ai eu beaucoup de bonheur à l'écrire. Je l'ai fait sans complexe et je peux dire que je suis vraiment contente du résultat. On vous voyait souvent à l'émission Denis Lévesque. Votre carrière télévisuelle vous manque-t-elle? J'ai fait de la télévision et de la radio pendant 30 ans et j'ai adoré ça. Mais j'ai envie d'autre chose. J'ai encore le goût d'explorer. Si quelque chose de merveilleux se présente, tant mieux, mais je suis vraiment bien dans ce que je fais. J'ai déménagé à la campagne voilà 1 an et demi et je suis bien occupé. J'écris pour un hebdomadaire, je m'implique dans mon milieu, j'ai des vaches Highland qui attendent leur bébé au printemps. Ma vie a changé et c'est le fun. Habituellement, les gens s'installent à la campagne pour profiter d'un rythme de vie plus posé. Qu'est-ce qui a motivé ce déménagement? Ça s'est fait naturellement. On a encore une résidence à Montréal, mais j'ai eu l'appel de la campagne. J'écris tellement bien ici qu'il faut que je me calme parce que je ne veux pas produire un livre par année. J'ai d'ailleurs une idée très claire du sujet de mon prochain roman, mais je ne veux pas en parler tout de suite. C'était Pascal Wilhelmy, en harmonie avec elle-même, un texte d'Alex Sandra Degnaud, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.
Le nouveau visage du gars fiable, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 9 mai 2023 dans la presse. Fin 2021, nous vous présentions Pietro Mancini, alias Le Gars Fiable, qui s'était lancé dans une aventure altruiste en proposant son aide bénévolement à des inconnus dans le besoin pour de menus travaux. Près de 2 ans après s'être lancé à corps perdu dans son projet, il poursuit sa mission, multiplie les appuis et vient de dévoiler son nouveau profil à la sauce super-héros pour marquer les esprits. Ce résident du Chambly, qui a offert des services gratuits à plus de 300 personnes ayant besoin d'un coup de main pour des tâches courantes, monter un meuble, tondre une pelouse, réparer une palissade, etc., continue de bâtir ce qu'il appelle la belle chaîne de beau, invitant les Québécois à céder aux sirènes de l'altruisme. Appuyé par des commanditaires et des dons du public pour rendre son projet viable, il espère récolter davantage de soutien pour mener à bien ses missions, n'hésitant pas à endosser l'image d'un super-héros pour attirer l'attention. Il a récemment dévoilé les grandes lignes de son nouveau visage et de ses projets. Être un bon gars n'est pas suffisant pour ce que je veux faire. J'ai envie d'assumer mon cœur de super-héros, d'être un symbole pour mettre en lumière l'altruisme et rendre ça cool. Donner aux autres le goût de se montrer, explique-t-il. J'aide les personnes en panne de ressources à retrouver une certaine paix d'esprit, ce que peut faire un super-héros, nous dit Pietro Mancini. Il a ainsi mis au point un costume, non en lycra comme les Superman de ce monde, mais à base d'éléments fonctionnels lui permettant d'accomplir ses tâches. Sa cape se trouve à être une couverture pour protéger le sol où poser ses outils. Son harnais lui permet d'accéder rapidement à ses perceuses et tournevis, le tout complété par des bottes de sécurité et un chandail frappé de son logo. Son modus operandi reste inchangé. Tout foyer de Montréal ou de sa couronne sud peut faire appel une seule fois à ses services pour obtenir une aide gratuite ou des travaux légers. Des munitions pour ses missions. Mais même le plus solitaire des super-héros ne peut travailler seul, et c'est en se tournant vers l'appui du public et de commanditaires qu'il peut mener à bien ses projets. Il a ainsi reçu celui de la Québécoise pure, qui lui fournit des produits de nettoyage pour ses missions ménagères, de l'agence Deuxième Tête, qui lui offre un soutien administratif, d'un Family Prix de Repentigny, lui prescrivant une somme annuelle, ou d'un contributeur particulier épongeant ses frais d'essence. Derniers acolytes en date, les quincailleries Princess Auto lui prêteront désormais les outils nécessaires pour ses missions sur le terrain, tandis que l'opticien à vocation communautaire Le Bonhomme à lunettes lui offre un soutien. Parallèlement, le gars fiable continue de multiplier les initiatives pour faire rayonner l'altruisme avec des chroniques radiophoniques quinzomadaires à ce sujet sur les ondes de CKVL ou la création d'un groupe Facebook pour favoriser l'entraide et les services rendus partout au Québec. Il aspire également à donner des conférences sur son cheminement dans le bénévolat. L'idée est aussi d'inspirer les gens à agir de façon plus altruiste quand ils le peuvent, au quotidien, indique M. Mancini. C'était « Le nouveau visage du gars fiable », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 9 mai 2023 dans la presse.
Julie Bélanger, imparfaite mais inspirante. Une entrevue dirigée par Anne-Marie Tremblay, parue en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. La charismatique animatrice a accouché du projet le plus intime de sa carrière, selon elle. Imparfaite, une série documentaire qui aborde des thématiques comme la dépression, le pardon, la résilience, etc. Des sujets qu'elle explore à travers sa propre expérience, mais aussi à travers la loupe de spécialistes et d'autres personnalités publiques. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette série? C'est un projet que je porte depuis longtemps. Tout a commencé quand j'ai fait un épisode d'épuisement professionnel à l'âge de 33 ans. J'ai vraiment pris une débarque. C'est à ce moment que j'ai commencé à travailler sur moi, que j'ai débuté une thérapie. Aussi, un de mes proches a sombré dans la dépression et j'ai vraiment eu peur. C'est là que j'ai eu un déclic. J'ai réalisé qu'il fallait parler de santé mentale, qu'il fallait arrêter de faire semblant que tout va bien, que tout est parfait. J'ai déjà abordé ces sujets par l'entremise de mon blog et la publication d'un livre, mais je trouvais que la télé permettrait de rejoindre encore plus de gens. C'est donc un projet important pour vous. Oui, jamais je n'ai été aussi loin dans la vérité, dans la vulnérabilité. Avec les personnalités invitées, on plonge dans la discussion sans filtre, en toute authenticité. En fait, ce n'est pas un projet que j'anime, c'est un projet que j'incarne. C'est vraiment la femme et non l'animatrice qui est mise de l'avant. Ça donne tout un vertige, mais je n'avais pas le choix. Je ne voyais pas comment me retrouver devant des artistes qui parlent à cœur ouvert en conservant mon rôle d'animatrice. D'ailleurs, comme j'étais aussi productrice au contenu, j'ai conçu ce projet de A à Z. C'était important que ce soit intelligent, que ça apporte des clés aux gens, tout en gardant un côté lumineux, même si certaines thématiques sont dures. Je pense que c'est réussi. Qu'avez-vous retiré de cette expérience? J'ai fait des rencontres humaines cœur à cœur. Par exemple, le dernier épisode est consacré au vieillissement. J'ai organisé un party chez moi avec Judy Richard, Edith Butler et Shirley Theroux, et j'ai capoté ma vie. Ces femmes-là ont vraiment tout compris sur le fait de bien vieillir. Cet épisode est rempli de perles de vérité. Par exemple, Edith Butler m'a expliqué qu'elle a, en quelque sorte, commencé à préparer sa vieillesse dès la vingtaine. Comme il y avait certaines maladies dans sa famille, elle a commencé à faire des choix santé très tôt dans sa vie. Je n'avais jamais entendu cela avant. Et ce n'est qu'un exemple. Aussi, Shirley Theroux est presque devenue ma coach de vie. Quel message aimeriez-vous que les gens retiennent en écoutant Imparfaite? Ça peut arriver à tout le monde de tomber. Mais c'est important de savoir qu'il est possible de se relever. Si cette série peut donner de l'espoir, offrir des pistes de solutions, de réflexion aux personnes qui la regardent, alors ma job est faite. Imparfaite est diffusée sur la plateforme Vrai depuis le 23 mai. C'était Julie Bélanger, imparfaite mais inspirante. Une entrevue dirigée par Anne-Marie Tremblay, parue en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.
Comment demeurer un enfant dans un pays en guerre? Un texte de Magdalene Boutros, paru le 31 janvier 2024 dans Le Devoir. Troubles du sommeil, troubles alimentaires, anxiété, solitude. La guerre qui sévit depuis près de 2 ans en Ukraine ronge la santé psychologique des enfants et des adolescents. Toutes les générations d'Ukrainiens vont être affectées par l'expérience de la guerre pour le restant de leur vie, mentionne Oksana Pisareva, une psychologue qui travaille auprès des enfants ukrainiens. Elle souhaite néanmoins que ces jeunes patients ne se voient pas comme des victimes de la guerre menée par la Russie. La guerre fait partie de nos vies. On doit apprendre à vivre avec, sans devenir des victimes, souligne la psychologue basée à Kiev, à l'occasion d'une entrevue vidéo avec Le Devoir. Une approche centrée sur la capacité d'agir, le respect de soi et la dignité, qui est également celle de la fondation Voices of Children, pour laquelle Oksana travaille depuis le début de l'invasion à grande échelle. Cette prise de pouvoir est cruciale, explique Odarka Kozak, responsable des communications pour la fondation. Les enfants savent que notre armée se bat pour leur vie et que nous aurons un avenir, et ils savent aussi qu'ils sont capables de se battre pour eux-mêmes, pour leur santé mentale et leur avenir. En donnant de nouveaux outils à ces jeunes patients, Oksana Pisareva souhaite qu'ils parviennent à se dire « Je vis cette expérience de la guerre, j'ai parfois beaucoup souffert, j'ai été plongé dans des conditions difficiles, mais je sais que j'ai été capable de lutter et de m'en sortir. J'ai du respect pour moi, pour ça, et je continue ma vie. » C'est pour cette raison que les jeunes Ukrainiens doivent vivre leur enfance dès maintenant, sans la mettre entre parenthèses pendant la guerre, dit-elle. Voices of Children organise d'ailleurs des camps de vacances pour permettre aux enfants de se faire des amis et de s'amuser. La Fondation, pour laquelle travaillent une centaine de psychologues, offre aussi du soutien psychologique et psychosocial, en groupe ou individuellement, aux enfants et à leurs familles qui sont touchés par la guerre. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, quelque 70 000 enfants et leurs parents ont bénéficié des services de l'organisme. Du choc à l'anxiété. Dans cette guerre qui s'étire depuis près de 2 ans, les demandes d'aide formulées par les jeunes Ukrainiens ont évolué au fil du temps. Au début, elles étaient surtout liées au choc vécu par l'invasion russe. Des enfants avaient des attaques de panique, d'autres n'étaient plus capables de manger ni de dormir, indique Oksana. Puis d'autres mots sont apparus. Beaucoup d'enfants se sentent anxieux tout le temps. Certains se sont mis à se ronger les ongles ou à se gratter la peau. Des enfants et des adolescents se sentent constamment déprimés et frustrés, poursuit la psychologue. Ils se désintéressent de leurs études ou abandonnent leurs activités sans comprendre pourquoi. Ils disent qu'ils n'ont plus d'énergie pour quoi que ce soit. D'autres vivent de la solitude parce que leurs amis sont partis ou qu'ils ont eux-mêmes été déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, parfois en étant séparés d'une partie de leur famille. Des enfants ont développé des troubles alimentaires. Avant, on traitait surtout des filles. Maintenant, on a davantage de garçons et des enfants aussi jeunes que 8 ou 9 ans. D'autres ont commencé à s'auto-mutiler ou à songer au suicide. Comment dormir? Mais surtout, enfants comme adultes ont de la difficulté à dormir dans leur pays en guerre. Oksana a notamment suivi une jeune fille de 8 ans qui n'arrivait plus à trouver le sommeil depuis qu'un édifice à côté de chez elle, à Kiev, avait brûlé lors d'une attaque aérienne. Elle refusait de dormir chez elle dans son lit. Elle voulait seulement dormir dans un abri sous la terre. Elle disait qu'elle avait peur, si elle s'endormait, de ne pas entendre les sirènes qui avertissent d'une attaque imminente. La nuit avant l'entrevue avec Le Devoir, Oksana, comme tous les résidents de Kiev, a d'ailleurs été réveillée à plusieurs reprises par des sirènes. « On ne s'habitue pas à ces nuits sans sommeil », dit la psychologue. Après s'être terrés dans des corridors, endroits plus solides ou dans des abris, les adultes sont partis le lendemain matin au travail et les enfants à l'école. Après avoir vécu tout ce stress, on doit se reprendre en main et continuer nos vies. C'est un véritable défi pour chacun de nous. Exposés dès leur jeune âge à ces violences, les enfants ukrainiens apprivoisent déjà la haine. C'est impossible d'imaginer qu'ils ne vont pas haïr les Russes, soutient Oksana. Les Russes ont déversé beaucoup de douleurs dans toutes les familles, mais haïr notre ennemi ne les empêchera pas aussi d'aimer avec tout leur cœur. Des émotions que les enfants découvrent au même rythme qu'ils redéfinissent la valeur qu'ils accordent à la vie. Désormais constamment menacés. Les enfants qui réussiront à transformer cette tragédie en expérience auront gagné en confiance, en créativité et en adaptabilité, souligne Oksana. C'était « Comment demeurer un enfant dans un pays en guerre », un texte de Magdalene Boutros paru le 31 janvier 2024 dans Le Devoir.